BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club, ils viennent de nous rejoindre. Rachid Medjaoui, directeur adjoint de la gestion privée de Louvre, banque privée. Bonsoir Rachid.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Et Benoît Pelloual. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Guillaume.
Directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Des marchés en hausse aujourd'hui, figurez-vous. Après les inquiétudes des derniers jours liées au marché obligataire, on reprend du poil de la bête. On respire à nouveau un peu. Le Nasdaq gagne 1% avant Nvidia ce soir, on en parlera. Et à Paris, le CAC 40 gagne carrément 1,6%. Est-ce que quelque part, Benoît, le marché se dit « Oui, les taux sont élevés, mais la croissance des entreprises, la croissance des bénéfices des entreprises va encore plus vite que la hausse des taux obligataires. » Et c'est ça qui compte. Et c'est pour cette raison peut-être que malgré les taux élevés, on peut continuer d'acheter des actions. Est-ce que c'est ça que se disent les investisseurs ?
Alors c'est probablement ça, parce qu'on a donc le dernier gros morceau de la tech qui doit publier. Et quand on voit comment s'est déroulée cette saison des publications, en particulier pour le secteur de la tech, il y a quand même ça vient encore nourrir l'enthousiasme autour de ce qui se passe dans la tech. Pour rappel, la tech est vraiment au cœur des révisions en hausse des attentes de profit sur cette saison des résultats. Si on y ajoute les effets positifs du pétrole pour l'énergie aux États-Unis, quasiment 98% des révisions en hausse sont expliquées par ces simples deux secteurs. Donc là, on a le dernier gros morceau de la tech qui est en plus le baromètre, semi-conducteur, etc. Donc qui doit publier, donc évidemment ça nourrit toujours cet enthousiasme, mais il y a aussi l'histoire sur les taux qui a agité les marchés récemment, et en fait c'est un peu ça qui est aussi bien pris aujourd'hui, c'est qu'il y a une détente obligataire qui est assez nette et qui s'explique notamment par le fait que un des points un peu chauds sur les taux, c'est le Royaume-Uni. On a des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni qui sont finalement mieux que ce qui était attendu, qui a été publié en fin de matinée, et on a aussi la confirmation des estimations de l'inflation aussi en zone euros qui a été publié, qui montre qu'effectivement il y a un impact de l'énergie, certes, qui est relativement attendu par tout le monde, mais qui se limite globalement à l'énergie. Quand on regarde justement tout ce qui concerne plutôt les services qui ne sont pas véritablement liés à l'énergie, il n'y a pas spécialement de problématique d'inflation encore à ce stade. Donc ça, c'est plutôt de nature à aider la détente obligataire, et donc je pense que c'est en partie ce qui est derrière la séance du jour, parce que c'est justement ces tensions sur les taux qui, à notre sens, sont le sujet maintenant important. On va refermer avec Nvidia cette parenthèse pleine d'enthousiasme liée aux résultats de société.
On pourra
en reparler sur ces chiffres, mais on va revenir à la problématique centrale qui est la dimension inflationniste, même stagflationniste, de ce conflit en Iran et la façon dont ça se propage à l'ensemble de l'économie.
Oui, aujourd'hui donc détente obligataire. Est-ce que malgré tout, structurellement, vous êtes de ceux, Rachid, qui pensaient que la détente du jour, c'est ça la parenthèse, et que structurellement, les taux vont continuer de progresser? Je vous pose la question, parce qu'il y a un an, par exemple, on avait eu un accès de fièvre sur le marché obligataire avec le Liberation Day. Et il a suffi d'une phrase, d'une prise de parole de Donald Trump pour que ce marché obligataire se détente, d'un coup de baguette magique, comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer que la même chose se produise là avec la remontée des taux qu'on observe cette année?
Non, ça va être compliqué parce que l'année dernière, Monsieur Trump avait été à l'origine du krach obligataire, et donc il a pu l'éteindre avec son fameux recul qu'on appelle maintenant TACO. Pour une fois, j'allais dire les Américains sont pas franchement à l'origine de cette nervosité de nouveau sur les tensions obligataires. Les deux pays incriminés, on en parlait, c'est le Royaume-Uni et le Japon, parce que si vous regardez la hausse des taux depuis le début de l'année, en gros, ces deux pays ont rajouté à peu près 60 centimes de hausse de taux sur le 10 ans, alors que les Américains ont rajouté à peu près à peine 30 centimes. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être compliqué. Alors, il peut l'éteindre en signant un deal avec les Iraniens, mais on voit bien que c'est compliqué parce que les Iraniens ont compris qu'il avait besoin du deal et donc font monter les surenchères. Ensuite, quand on parle du marché obligataire, je pense qu'il y a deux matchs aujourd'hui dans la courbe des taux. Il y a un match, on va dire, sur la partie courte et moyen terme, en gros du 2 ans aux 5 ans, c'est clairement les anticipations sur Hormuz, l'inflation court terme, est-ce que ça va percuter ou non sur l'inflation. Donc ça dépend bien entendu de comment va évoluer la situation au Moyen-Orient, et clairement j'ai pas de boule
ça,
de
ça c'est
cristal.
Sur les tensions sur les dettes de 2 à 5 ans.
Voilà, 2 à 5 ans. Donc le match
court terme,
ça c'est vraiment le principal driver. Okay. Bien entendu, il y a les banques centrales. Alors nous, On a du mal à acheter ce que le marché intègre comme anticipation. Trois hausses de taux.
On va y venir, mais vous disiez, c'est intéressant, vous disiez, il y a deux salles, deux ambiances dans ce marché obligataire, même si tous les taux montent. Voilà. Donc, sur les courts termes, OK, on a compris, c'est lié à Hormuz. Sur les autres échéances, c'est lié à quoi?
Voilà. Et donc, sur le court terme, encore une fois, il suffit que ça se calme là-dessus, c'est bon. Sur le long, c'est-à-dire au-delà du 5 ans et surtout les parties très longues. Hein. Là, tout le monde parle du 30 ans qui a cassé, très facilement le plafond des 5%. On revient à des choses qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps, depuis 2007. Là, on rentre plutôt dans des problématiques justement de croissance économique à long terme, de déficit budgétaire, enfin, toutes ces questions plus structurelles sur lesquelles nous pensons que c'est pas terminé, quoi. C'est-à-dire, le sens de l'histoire, nous le symbolisons par un terme qui est devenu très à la mode, post-Covid, c'est le thème de la reflation. C'est-à-dire que nous sommes rentrés depuis le Covid avec le retour des États-nations à la manœuvre, avec ces plans budgétaires colossaux pour des bonnes choses, hein, peut-être, mais ça veut dire beaucoup de dépenses budgétaires, beaucoup de croissance, d'investissement, et ça, ça nourrit l'idée que la croissance économique mondiale, nominale, je dis bien nominale, c'est-à-dire inflation plus croissance, a rifté vers le haut, et ça doit se traduire par des taux plus longs. Il ne faut pas exagérer, 5% sur le 30 ans, c'est des choses qu'on a vues avant 2008.
En 2007, qui n'était pas une super année, ça a enclenché 2008.
Le taux de l'OAT française était à la porte des 4%. Ce qui compte pour l'obligataire, pour les marchés equity, c'est pas le niveau des taux longs. Alors, il y a un niveau de souffre-douleur, mais c'est la vitesse, encore une fois, de remonter. Mais c'est pas le niveau absolu qui est primordial.
Antoine, on fait de la politique fiction. Supposons que ce soir, Donald Trump dise « C'est bon, on arrête, on s'en va d'Iran, c'est terminé, on est copains. On a un deal, etc. » L'économie, elle va mettre 2 ou 3 ans à s'en remettre du bazar qui est actuellement sur les circuits d'approvisionnement, l'énergie, etc. Mmh. Ça va mettre un temps fou. Ça va être un temps fou. Et d'ici là, les taux ont largement de quoi déborder. Ça a finalement été un accélérateur de problèmes qui existaient déjà, la crise en Iran.
Absolument. Je reprends complètement vos propos, Antoine. C'est l'Ukraine et l'Iran, pour la partie très longue, ce sont, comme le Covid, des accélérateurs d'une tendance qui était inscrite, qui est en gros le retour de l'inflation, le retour de la croissance nominale. Et ça, le meilleur indicateur à long terme d'un taux long, Guillaume, et ça marche très très bien, c'est le PIB nominal. Voilà. Et donc là, il y a encore un petit gap avant d'aller, si jamais la tendance qu'on observe...
Quelqu'un ici a-t-il la clé ? Qui arrêtera la flambée des taux obligataires ? Aujourd'hui, on a une petite pause, mais structurellement, sur les taux longs, qui a la clé ? Benoît, est-ce que vous l'avez ?
Alors, en tout cas, c'est pas moi qui ai la clé. Je suis désolé de vous décevoir, mais en tout cas, Rachid a vraiment raison. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe sur la partie longue des courbes de taux. Évidemment, cet accès d'inquiétude qu'il y a eu avec cette hausse des taux longs, c'est la rapidité de cette tension sur les taux qui pose question. Il y a deux points chauds bien identifiés, le Royaume-Uni et le Japon, mais encore une fois, les États-Unis, c'est quand même le cœur des marchés financiers. Et il y a quand même eu quelque chose d'un peu nouveau récemment, c'est que bien évidemment, c'est toujours l'impasse du côté d'Hormuz, mais ça affecte pas tant ce qui se passe à très long terme sur les courbes de taux. Il y a eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis, et les chiffres de l'inflation, ils montrent qu'évidemment, comme partout, il y a un impact énergétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la confirmation qu'il y a bien une inflation persistante qui date d'avant ce conflit, qui est reflétée à travers tout un tas de services qui sont absolument pas directement liés à ce qui se passe aux matières énergétiques. Et le deuxième élément, et c'est très important pour nous, pour le scénario de marché,
ce que vous venez de dire est déjà très embêtant quand même pour l'inflation.
C'est pour ça que nous, on est assez convaincus que l'économie américaine ne va pas échapper comme ça aussi facilement à ce qui se passe et que les problématiques inflationnistes sont peut-être même plus aiguës en réalité aux États-Unis parce qu'on n'a pas regagné fondamentalement la maîtrise de l'inflation, ce qui est le cas du côté de la zone euro. Ce qui s'est passé, qui explique à notre sens la nervosité sur les taux, c'est que on a eu un décalage qui n'est pas anodin sur les anticipations d'inflation à long terme. Les swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans aux États-Unis sont significativement remontés sur une semaine. Ils ont pris 20 points de base. On est sur des swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans à 2,6% aujourd'hui. C'est élevé. La dernière fois qu'on avait eu un point haut majeur, c'était l'après-Covid, on était à 2,8. Ça veut dire quoi ? C'est très important, et c'est probablement ce qui explique aussi que les taux réels à long terme se tendent aux États-Unis, notamment sur le 30 ans réel, ça se tend plus vite que sur le 10 ans.
Les taux longs se tendent, c'est comme si votre moelle épinière n'arrivait plus à circuler. Attention, c'est hyper important, c'est structurel pour les marchés.
C'est ça, pour nous, c'est quand même un petit drapeau qu'il faut surveiller, qui vient de se lever, parce que qu'est-ce qu'il faut de la réaction des banques centrales ? Quand il y a un choc énergétique, elles ne sont pas vouées à réagir immédiatement. Elles doivent réagir si ça se transmet plus généralement dans l'économie et ou s'il y a un mouvement sur les anticipations d'inflation à long terme. C'est précisément ce qui est en train de se produire. Et ça, pour nous, c'est très, on est très attentif à cela, et c'est pour ça qu'on se méfie quand même de ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on a multiplié les chocs inflationnistes au cours de la dernière décennie. On n'a pas regagné fondamentalement la maîtrise de l'inflation, donc on peut reprocher à la Banque Centrale Américaine, on peut reprocher à la politique fiscale très expansionniste, qui est probablement ça la vraie raison. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas regagné la maîtrise de l'inflation, et il y a probablement plus de volatilité dans ces anticipations d'inflation à long terme aux États-Unis, et ça pourrait justement faire réagir à la hausse justement les taux sur la partie longue de la courbe. Et ça, c'est quelque chose qu'on surveille, parce que si c'est le cas, ouais, ça peut pousser les banques centrales à se montrer effectivement un peu plus restrictif que prévu, et donc avoir un impact un peu plus négatif sur le sentiment de marché, notamment par ricochet sur les marchés actions.
Oui, c'est vraiment, voilà, on est sur la moelle épinière là, on attaque la moelle épinière, et attention à ce qu'elle se dérègle pas trop rapidement. On a quand même des bonnes nouvelles quand même. Par exemple, la dérégulation bancaire aux États-Unis, cette dérégulation bancaire, alors on peut se dire que ça ouvre le champ à tous les excès financiers, etc., la boîte de Pandore, oui, mais elle apporte aussi des liquidités supplémentaires. Apparemment, là, de ce qu'on lit, les chiffres qu'on voit passer, 4000 milliards de dollars supplémentaires, là, rien cette année grâce à la dérégulation bancaire qui arrive sur le marché, qui sont prêts à s'investir sur le marché, 4000 milliards. Ça va peut-être aider à justement modérer la hausse des taux parce qu'une partie de cet argent ira s'investir sur la dette américaine et sur nos dettes aussi. Est-ce que cette dérégulation bancaire finalement peut venir sauver le marché obligataire?
Je ne sais pas si ça peut venir sauver le marché obligataire. Je ne sais pas d'ailleurs si le marché obligataire a besoin d'être sauvé. Encore une fois, on est sur des niveaux de taux et on a connu plus élevés. Mais encore une fois, c'est la vitesse de tension qu'il y a sur les taux qui peut faire dérailler les marchés. Et encore une fois, si on regarde tous les phénomènes historiques d'euphorie sur les marchés, d'optimisme un peu excessif, voire de bulle, ils ne se sont pas toujours corrigés soit par un événement exogène ou alors parce qu'on a des déceptions en premier lieu sur les profits. Ils se sont généralement calmer parce que tout simplement les taux sont significativement remontés. Et c'est ça effectivement qu'il faut surveiller, c'est cette vitesse de progression des taux d'intérêt, de tension qui peut avoir des effets, encore une fois, qui sont relativement importants parce qu'on a une politique monétaire, une politique fiscale aux États-Unis qui est très expansionniste. On est toujours sur un niveau de déficit qui est autour de quasiment 6%, ce qui est généralement ce qu'on voit dans une situation de récession, alors qu'on est une économie qui continue d'être extrêmement solide. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut surveiller.
Oui, mais alors on peut se dire aussi que le marché obligataire anticipe la croissance à venir aux États-Unis, boosté par les gains de productivité, par l'IA. Est-ce que c'est ça aussi, et là on essaie de voir les choses en positif, que traduit la hausse des taux obligataires? Il y a de la croissance nominale embarquée dans ces taux obligataires à long terme. Donc est-ce que le marché parie aussi sur une accélération de la croissance à long terme?
Moi je pense qu'il y a de ça.
Il y a plus qu'un peu que ça.
Je pense que... On est tous contents de tous ces plans d'investissement colossaux. On est tous contents de tous ces plans d'investissement colossaux des États et des sociétés, notamment dans la tech. Mais ça veut dire une demande à l'épargne mondiale. Donc vous allez avoir une compétition pour l'épargne mondiale à un moment donné où, franchement, je regardais encore avant de venir les chiffres, les perspectives budgétaires américaines. Faut voir que, par exemple, 10 points de base de plus, Guillaume, si ça se maintient sur les 10 prochaines années, c'est 400 milliards de plus sur le déficit. Oui. La hausse des taux que nous avons eue sur le 5 ans américain depuis le début de l'année, si elle se maintient sur les 10 prochaines années, c'est un peu plus de 1500 milliards sur le déficit budgétaire. C'est pas prévu dans les perspectives du CBO américain. Les dépenses de défense ont été sous-estimées. Voilà. Donc il va y avoir une compétition mondiale pour l'épargne, et ça fait monter le ce qu'on appelle le taux d'équilibre des taux d'intérêt à long terme. Mais c'est, encore une fois, c'est pas grave. C'est pas un handicap pour les marchés actions. Ce qui est un handicap, encore une fois, c'est que ça aille trop vite et ça peut rebattre un peu la rotation, notamment des valeurs de croissance. Voilà, ça peut devenir gérant. Mais encore une fois, il faut pas voir dans cette tension sur l'obligataire. Je répète, ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le 2-5 ans. Où là, c'est plus problématique parce que c'est les banques centrales, c'est le court terme. Sur le long terme, on peut avoir une lecture qui est un peu moins pessimiste, et c'est celle que vous aviez il y a 30 secondes.
Mais alors, on va regarder aussi, dans un instant, on regardera d'ailleurs pourquoi les marchés sont autant en hausse aujourd'hui, parce qu'on a une accélération du CAC, là, plus 2,2% d'un seul coup. On va regarder, ouvre un œil et des radars sur tous les pans du marché, bien sûr, pour comprendre ce qui se passe là, en cette fin de séance, plus 2,2% d'un coup, le CAC 40. Mais juste avant, vous disiez, il va y avoir une course à l'épargne, une concurrence sur l'épargne pour essayer de venir financer les dettes publiques. En fait, les pays qui dépendent le plus des créanciers extérieurs internationaux sont les plus en danger. Je voyais les États-Unis, plus de 30% de leur dette est détenue par des investisseurs étrangers, plus de 30%. Mais alors nous, c'est bien pire. Nous, c'est 54% la France. Oui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des États-Unis là, mais en fait, la France là-dedans, c'est encore pire.
Mais il y a trois pays hein, qui inquiètent, effectivement, États-Unis, France, Royaume-Uni, mais oui. En réalité, oui, la France inquiète si on regarde, par exemple, la charge en termes de taux d'intérêt. On était quatrième sur le podium européen, on est devenu premier. Donc on est voilà recordman aujourd'hui en termes de charges d'intérêt sur par rapport au PIB, mais la France, faut pas non plus exagérer les choses, tout simplement parce que ce qui compte, c'est pas que le pourcentage d'étrangers qui détiennent la dette, c'est en gros la situation de balance courante. Vous savez, c'est un peu le compte bancaire, le solde bancaire des États. Mmh. Et là, il y a deux pays qui pour le coup sont très inquiétants, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, pour les États-Unis, il faut rajouter autre chose. Quelque chose de fondamentalement stratégique, et ça, c'est la faute de Trump, c'est que beaucoup de pays qui, historiquement, recyclaient leur excédent sur le marché américain, vont avoir du mal ou peut-être un peu plus de difficultés à le recycler. On pense à cause de quoi? À cause de ce qui se passe sur la géopolitique, où beaucoup de pays s'aperçoivent que les États-Unis sont pas forcément un allié comme ça de premier ordre. Mm-hmm. La saisie des avoirs russes. On a ouvert la boîte de Pandore.
Oui. Ça rend beaucoup d'émergents très méfiants. Pas que les émergents, d'ailleurs. La France a rapatrié une partie de son stock d'or qui était à New York.
Vous avez cité le mot émergent. Où est-ce qu'il y a de la croissance d'épargne dans le monde actuellement et dans les prochaines années? C'est dans les pays émergents. Et ces pays-là, peut-être qu'ils vont acheter un peu moins d'obligations américaines. Ça aussi, ça met un peu de pression sur la courbe très longue des États-Unis.
On est à 16 minutes de la clôture. Le CAC 40, là, dans la dernière ligne droite, donc accélère. On gagne 2%. Voilà, comme ça, 8136 points. Je sais pas, Antoine, si on a des infos particulières. Rachid?
Alors, en venant, j'ai vu une nouvelle Bloomberg, apparemment, enfin, je sais pas, parce que vous savez qu'il y avait des inquiétudes sur des grèves chez Samsung qui pouvaient complètement bloquer, et en fait, apparemment, ils auraient trouvé un deal. Salarial, peut-être que
voilà, on peut participer peut-être une goutte d'eau. Il en faut peu quand même pour soutenir le marché, si c'est ça. Non, mais c'est important pour les Coréens, mais pour nous, c'est important pour la tech.
Non, mais c'est important parce que si on regarde le rebond depuis les points bas post déclenchement de cette crise, la lecture du marché, elle est très claire. Hein. C'est la thématique tech qui fait exploser les marchés, parce que nous, au CAC 40, actions zone euro, nous sommes toujours en négatif, et alors que les autres, ils sont bien au-dessus, et c'est la tech, donc
d'accord.
C'est important.
Donc si Samsung évite une grève, parce que c'est un très gros groupe, bien sûr, voilà. Samsung notamment, et alors pour le PIB coréen, évidemment, c'est important, le risque, la menace de grève, ça plomberait l'économie sud-coréenne, enfin de là à permettre une accélération haussière des marchés en Europe, je ne sais pas, il y a vraiment un lien potentiel
En Europe et partout, la moindre nouvelle qui concerne la tech dans le monde, c'est ça, des répercussions sur les marchés mondiaux. C'est très clairement le secteur. Si on regarde la progression des marchés sur ces dernières semaines, en fait, c'est uniquement lié à la tech. Je l'expliquais à travers les révisions de bénéfices. On est aujourd'hui, pour cette année 2026, la croissance des profits qui est attendue en 2026, on est maintenant à quasiment 25% de croissance. En début d'année, on attendait 15%, ce qui apparaissait déjà comme relativement challenging, alors que l'économie américaine est censée ralentir. On est à 25%. Ça paraît tout à fait normal pour à peu près tout le monde. Mais en fait, en dehors de la Covid, où l'économie américaine était surstimulée par la politique expansionniste, on a rarement eu des croissances de profits attendues aussi importantes.
C'est pour
alors
ça que
l'économie est censée ralentir.
Et c'est pour ça que j'ai tendance à me dire, les marchés peuvent continuer de monter malgré des taux très très élevés. On a une croissance bénéficiaire des entreprises jamais vue.
Alors attention,
rarement vu en tout cas.
Alors justement, attention, il y a quand même des épisodes historiques qui vous montrent que c'est pas toujours le cas. Et effectivement, il y a souvent un parallèle qui est fait entre les valeurs de technologie américaine, les valeurs de croissance, et ce qui s'est passé au tout début des années 70, avant le premier choc pétrolier. C'est le dégonflement des Nifty 50. On était dans une situation un peu comparable, alors pas aussi tendue, mais un peu comparable. On avait toute une série d'entreprises américaines absolument fantastiques, dont beaucoup existent encore aujourd'hui, McDonald's, Coca-Cola, mais il y a aussi Polaroid ou Avon Products, etc., qui étaient des sociétés qui semblaient comme ça depuis des années défier tous les cycles économiques avec des profits absolument fantastiques. Et il faut bien avoir en tête que il n'y a pas eu spécialement d'effet d'impact d'événements exogènes. Hein. Le choc pétrolier arrive qu'en 73. Là, je parle de la fin des années 60 et avant ces 73, ou simplement le fait que les taux remontent à cause de pressions inflationnistes persistantes. Alors à l'époque, elles étaient était beaucoup plus grave, parce qu'il y avait de l'indexation des salaires, hein, bien évidemment, oui. Des politiques fiscales très expansionnistes. Ces sociétés, malgré des profits extrêmement solides, on parle de croissance de bénéfices de l'ordre de 30 à 40%.
Oui, c'est comparable à ce qu'on voit aujourd'hui, clairement. Oui, oui.
Ont vu leur prime de valorisation se dégonfler extrêmement rapidement, simplement sous l'effet de la hausse des taux. Et donc, attention, encore une fois, même si on génère beaucoup de profits, c'est souvent l'argument qui est mis en avant pour expliquer qu'il n'y a pas de bulle, c'est tout à fait juste, on n'est pas dans une situation qui représente, qui se compare à 2000, où effectivement on avait des espérances de profits assez surprenantes. Là, c'est pas le cas, on génère énormément de profits, mais attention, des profits ne rendent pas forcément invincibles. Si on a effectivement une hausse des taux qui commence à être jugée relativement excessive, elle va révéler des valorisations qui sont un peu excessive, mais le et sont, entraîne mais un mouvement de dégonflement.
Mais le sont-elles excessives, les valorisations semblent... Tout le monde nous dit, oui, les marchés sont sur des records, mais en fait, compte tenu de l'ampleur des hausses de bénéfices des entreprises, en fait, on est sur des valos qui restent très raisonnables dans la moyenne historique.
Ce qui inquiète, c'est
pas... Vous n'allez pas être d'accord l'un et l'autre, là.
Non, après, c'est factuel. Si vous dites les prévisions de croissance de bénéfices à 12 ou 24 mois, elles sont crédibles, et ce qu'on croit globalement, sauf accident stagflationniste, La comparaison, on était sur des niveaux de 40 fois, 40 fois les PE de 24 mois dans les années 70, on était 30 fois ou 40 fois pas loin dans les années 2000. Là on est à 20, 25.
Ah ouais.
Ben, j'ai Nvidia.
Wall Street, ça va.
Voilà, Nvidia se paye comme L'Oréal, pour faire simple. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, voilà. Donc le problème, pour nous, il est pas là. Le problème, il y a un problème de concentration. Il y a quelque chose, il y a un chiffre qui vraiment inquiète et qui sonne. C'est que on a aujourd'hui les 10 grosses valeurs qui représentent 40%. Alors le 40% de la market cap, il est magique. On a tapé dessus historiquement dans tous les pics de bulles dans les années 70, la bulle japonaise, la bulle TMT, on est allé toper à peu près 40. La seule bulle sur laquelle on a été plus loin, c'est la bulle des chemins de fer au 19e siècle. Bon, alors, je sais pas s'il faut le prendre en compte. Donc ça fait peur à certains investisseurs, cette concentration.
Donc plus que oui, mais à l'époque quand il y avait ces niveaux de concentration, est-ce que les valos elles étaient excessives? Parce qu'actuellement elles ne le sont pas.
Elles étaient excessives. Mais Guillaume, l'autre point important, est-ce qu'on peut extrapoler ces niveaux de croissance? On a un problème de goulot d'étranglement. L'énergie, il vous a pas échappé qu'il y a à peu près 300 lois aux États-Unis qui ont été mises sur la table depuis le début de l'année dans les régions pour un moratoire sur les data centers. Oui, alors, ce qui nourrit l'explosion des valeurs semi-conducteurs, c'est les fameuses data centers. On a un problème d'eau. Donc il y a beaucoup d'États américains qui appelaient de leur vœu ces data centers qui commencent à les bloquer. Donc il y a ce risque, c'est vraiment ce risque-là qui peut venir un peu, non pas renverser la table, mais bloquer un peu tendance, voilà. Plus que les taux, à mon avis.
Et sur les valorisations, je ne vous voyais pas d'accord, là, Benoît. Vous trouvez que les marchés sont trop chers?
Alors, encore une fois, les valorisations, quand on les compare comme ça, il faut encore une fois prendre le contexte de taux d'intérêt. Ce qui importe pour nous, c'est la valorisation en relatif au taux d'intérêt. Et il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est pas dramatique, je rejoins Rachid là-dessus, mais qui pose quand même question en termes d'allocation active, c'est-à-dire qu'on a une prime de risque qui devient négative aux États-Unis. C'est-à-dire que le niveau de valorisation en relatif vous indique qu'effectivement, les marchés actions, c'est pas forcément là où on est censé, dans les années qui viennent, faire le plus de, où ça a le plus d'intérêt. C'était la même chose justement dans les années 70, avec des niveaux de valorisation qui étaient peut-être plus élevés, mais quand on regarde la prime de risque, on a eu à peu près le même type de mouvement. Ça montre qu'il y a un appétit pour le risque finalement assez féroce dans les marchés, dans les deux cas. Ensuite, l'autre élément qui me semble extrêmement important, c'est de regarder ça sur une perspective plus longue. Et encore une fois, Rachid a raison sur cet élément-là, parce qu'à 12 mois, effectivement, on peut avoir confiance dans les anticipations de profit, mais à plus long terme, il y a des challenges qui vont devoir être résolus, hein, notamment pour la tech. Et justement, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que progressivement, ce secteur qui est très concentré, encore une fois, on parle aujourd'hui de quoi? 7 valeurs, une dizaine de valeurs, et on parle de concentration extrême. Hein. Oui. Pour vous donner une idée de cette concentration, à l'époque des Nifty 50, on parlait de 50 boîtes. Hein, donc, on n'en a que 10, donc la concentration est particulièrement importante.
Mais est-ce que c'est un problème? Toute la lumière du monde est concentrée, c'est le soleil qui l'envoie. Est-ce que c'est un problème? Non, mais oui, on peut vivre avec la concentration, ça peut même faire vivre la concentration.
Alors en tout cas, c'est un facteur qui est pour nous à surveiller, qui est un vrai facteur de risque, parce qu'en fait, le moindre freinage sur ce secteur, une simple déception sur les profits, peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes, et une réaction en chaîne qui va impacter justement l'économie de façon plus générale. Oui.
Antoine ?
Donald Trump vient d'annoncer que Iran et États-Unis seraient sur la phase finale de leurs négociations pour réaliser un deal.
C'est la combien de fois?
Oui, ça doit être la 450e fois, mais disons que le marché, pour l'instant, y croit, étant donné que le CAC 40 gagne 2% et qu'on a quand même une nette accalmie, notamment autour du pétrole. $104 pour le baril de Brent de Mer du Nord, la correction est assez violente, et 97 pour le brut léger américain.
Oui. Ben voilà, 2% de hausse à Paris, le Nasdaq gagne 1,2%, le S&P plus 0,8%, mais vous emballez pas parce qu'on entre dans la pire période de l'année, les amis. Oui. De mai à octobre, les années d'élections de mi-terme, donc on y est là, élections de mi-terme dans 6 mois, de mai à octobre, depuis 1962, les marchés américains reculent à chaque fois pendant les 6 mois. 15 fois sur 16, il y a eu 16 élections de mi-terme aux États-Unis depuis 1962, 15 fois sur 16, le marché de mai à octobre a reculé, et parfois de 20, voire 25%, pas qu'à moitié. On entre dans cette phase, mai-octobre, précédant une élection de mi-terme. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, peut-être qu'il s'en fiche Donald Trump des midterms, qui se dit qu'elles sont perdues d'avance et que vaille, si ce conflit en Iran dure, eh ben c'est pas si grave. Même si là, pour la 300e fois, il dit qu'on est proche d'un accord.
Alors, je connaissais pas cette prophétie boursière, là, mais ce que j'avais en tête, moi, c'était plutôt...
C'est une stat, c'est pas une prophétie. Non. 15 fois sur 16, le marché recule.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'avais plutôt en tête l'idée que, historiquement, à quelques mois des mid-terms, à partir d'en gros, vous avez raison, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, les marchés font plus rien. Beaucoup de volatilité, ça monte, ça baisse, voilà. Et pourquoi? Parce que le marché attend un peu d'être sûr des résultats. Et ce qu'adore le marché, c'est qu'en fait, dès la rentrée, quand il va s'apercevoir qu'il y a un split... Ce que dans le marché, c'est quand le président en place n'a pas de majorité dans les deux chambres. Il adore les situations où il y a une séparation des pouvoirs, parce qu'en général, ça évite les bêtises macroéconomiques. Et donc, si on part vers une situation où on s'aperçoit à partir de septembre que les républicains n'auront plus la majorité dans les deux chambres, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est qu'à mon avis, on bascule vers des anticipations où les démocrates l'emporteraient. Je ne sais même pas si c'est techniquement possible.
C'est possible, bien sûr.
Là, c'est plutôt là pour les marchés. Ça serait, à mon avis, plutôt une vision un peu négative, parce que ça introduirait l'idée qu'ils vont en refaire encore de la relance fiscale que c'est pas le moment. Donc, quand on a un déficit déjà de 6 ou 7%.
Oui. Enfin, le roi de la relance fiscale, c'est quand même Donald Trump. Enfin, il distribue des chèques en ce moment.
Oui.
Benoît.
C'est un gros changement aux États-Unis. Enfin, on est en train d'enchaîner plusieurs mandats, démocrates ou républicains, où la relance fiscale est le nerf de la guerre. Encore une fois, on entretient un déficit de près de 6% du PIB, alors qu'on n'est pas du tout, c'est ce qu'on voit d'habitude dans une situation de récession. Donc, j'ai envie de dire, démocrates ou républicains, Rachid a parfaitement raison. C'est surtout le discours qu'il va y avoir sur cette idée qu'il faut perpétuellement nourrir la demande. Attention. Encore une fois, ce genre de problématique. Alors, sur la répétition des comportements boursiers, moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on est en train de s'installer durablement dans un monde d'incertitudes particulièrement élevées, et notamment d'incertitudes politiques, géopolitiques particulièrement élevées. Et les États-Unis n'y échappent pas. Il y a certes toujours les États-Unis qui sont loués pour la stabilité de leurs institutions, etc. Et on voit que, effectivement, comme partout ailleurs dans le monde, il y a un peu plus d'incertitudes politiques, parce que, il y a cette dimension fiscale qui est extrêmement importante et qui est devenue déterminante dans l'économie. Dans l'économie américaine.
Oui, mais le retour des États, de la politique et de la géopolitique en l'occurrence, le retour de la géographie, les marchés n'aiment pas trop, effectivement. Même si aujourd'hui on est sur une belle hausse pour le CAC 40, Nvidia publiera ses résultats ce soir, on verra si Nvidia redonne le moral au marché, si Nvidia est plus fort que le marché obligataire, pour redonner en tout cas de l'optimisme aux investisseurs. Regardez là, Alphabet parvient à générer $1 million de bénéfices toutes les 4 minutes. C'est le site bestbrokers.com qui a compilé en fait les entreprises les plus rapides à générer des millions de bénéfices. Et bien sûr, ce sont les grandes tech américaines qui dominent ce classement. Au premier rang, Alphabet, moins de 4 minutes pour générer $1 million de bénéfices. Nvidia arrive derrière. Il faut à Nvidia 4 minutes 23 secondes pour générer $1 million de bénéfices. On parle bien de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Alors Apple et Microsoft, petits joueurs, il leur faut 5 minutes, 5 longues minutes pour générer $1 million de bénéfices. C'est fou hein, quand même. Et on a des marchés qui du coup continuent de monter. Et un Nasdaq qui, même s'il a reculé ces 3 derniers jours, reste proche des records.